I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Swear.
Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sœur avec notre cher Rust. On sort tout juste de la fin du main event entre Tony Ferguson et Justin Gaethje et nous sommes tout simplement dévastés parce que au-delà d'avoir perdu, notre cher El Kukui a pris une véritable punition. Et c'est même pire que ce qu'on envisageait parce que nous, on avait vraiment prévu qu'il perde assez rapidement finalement. Et là, le problème, c'est qu'il a encaissé. Si bien que c'est même pas Ferguson, enfin, c'est Herb Dean qui a dû intervenir pour que ce soit la fin du combat. Enfin, c'est terrible.
C'est terrible et c'est horrible parce que, grosso modo, et c'est là où c'est difficile de ne pas se dire que c'est là. Je veux pas le dire, mais que c'est la fin en fait, ouais, de Tony Ferguson, parce que grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que Tony Ferguson s'est fait Tony Fergusonner en fait.
C'est exactement. C'est ça.
Voilà, il a eu pendant 4 rounds et demi. Alors évidemment, ça n'a pas été une dérouillée comme un TJ Dillashaw, Renan Barra ou un truc comme ça, mais c'était quand même petit à petit, on sentait que ça s'accumulait et que petit à petit, voilà, il y avait un différentiel entre le dommage causé par Gaethje et le dommage causé par Ferguson. Et oui, il a mis un knockdown, alors je crois que c'était dans le deuxième. Et
ouais, même à la toute fin,
incroyable, monstrueux. Ouais. Mais il y a, enfin, on est à chaud, on est vraiment à chaud là, c'était il y a 10 minutes. Mais j'ai pas la sensation qu'à un moment donné, on ait senti que Ferguson était en mode, il prend le rythme qu'il prend d'habitude. Et donc là, c'est Gaethje qui il a livré une masterclass. Honnêtement, c'était voilà, c'est donc le nouveau Gaethje, c'est-à-dire que là et maintenant qu'il voit enfin, parce que donc il a révélé dans une interview qu'en fait il ne voyait rien avant, et c'est pour ça qu'il combattait comme ça la carapace. Et
que notre cher Paulie Domso nous avait dit, bien évidemment.
Absolument. Et là, voilà, depuis qu'il peut combattre entre guillemets normalement et mettre vraiment toutes ses armes à contribution de la meilleure manière. Maintenant, il peut faire ses énormes crochets et reculer parce qu'il peut voir ce qui se passe ensuite. Il a une bien meilleure gestion des distances. Le timing, il l'a toujours eu, mais là, c'est 2.0. Les low kicks, toujours au rendez-vous. Enfin, honnêtement, et puis la puissance. La puissance,
c'est ça qui m'a le plus impressionné parce que premier round, j'étais là, je me suis dit, bon, ok, ça fait vraiment beaucoup pour un seul homme, mais c'est cool parce qu'il a passé ce premier round. On avait dit que ça allait être hyper dangereux. Deuxième round, il est toujours là avec la même puissance. Tu fais, ok, Ferguson est quand même toujours là. Donc bon, il y a un moment, ça va aller. Troisième round, ah merde. Ouais. Ah merde. C'est vrai. Et là, pour le coup, je pense que vraiment ce combat-là, s'il y a bien une chose qu'on pourrait dire, on fera le tour de la main card avec notre cher Paulie Domso dans un deuxième podcast, bien évidemment. Mais ce qui est bien avec ce combat-là, c'est qu'on en a appris énormément pour Gaethje. Et je pense que Khabib, qui a vu ce combat-là, là, il rigole pas du tout. Parce qu'il se dit...
Ouais, après,
bien évidemment, Ferguson, il n'a pas du tout apporté ce que Khabib va apporter. Ouais. Mais là, il se dit quand même, t'as plus qu'un round de Gaethje. Et un Gaethje, ouais, on rappelle, qui s'est pris un uppercut d'une violence assez inouïe à la fin du deuxième round.
Ouais, non, il a maintenant, bon, c'est sûr, on le savait, s'il y a bien un truc qu'on savait, c'est que Gaethje n'a pas un menton de verre, mais maintenant, voilà, il l'a fait fusionner avec de la lave, ou je ne sais pas ce qu'il a fait avec, la pierre météoritique. Mettre KO Gaethje maintenant, c'est compliqué. Enfin, c'est très, 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 très compliqué. Oui, il a été mis KO contre Alvarez et contre Poirier. Et là, après des guerres.
Il a été sauvé par la cloche, peut-être.
Ouais, peut-être aussi. Mais là, je ne sais pas. Maintenant qu'il combat différemment, je le vois moins. Oui, et il s'en est pris aussi contre Ferguson. Il l'uppercute de dingue, comme tu viens de le dire. Ouais. Même des jabs. Sans déconner, le jab de Tony Ferguson.
Il était bien en place.
Il était, mais monstrueux. Bien long, sec. puissant, qui pénètre bien. Enfin, il était impressionnant. Et il y avait plein de trucs qui a bien fait Tony Ferguson. Il avait commencé aussi à bien travailler au corps. Front kick
et tout, ouais.
Et front kick au corps. En low kick aussi, il répondait bien. Des jabs au corps. Et puis, il touchait. Il réussissait à installer sa boxe seulement. Il réussissait à installer ses outils, Tony Ferguson. Mais sauf que le problème, c'est qu'il est tombé face à un mec qui répond pas comme les autres, en fait. Il est tombé face à un mec qui... c'est très étrange. Là, Justin Gaethje, c'est pas en mode OK, c'est la guerre. C'est un peu comme c'était contre Poirier ou Alvarez. Poirier Alvarez était en mode OK, ça y est, c'est la guerre. Là, maintenant, ça va être le fer contre le fer au niveau du mental, etc. Gaethje, c'est très étrange. C'est comme si à aucun moment il se dit c'est la guerre. Il est tout le temps en mode ouais, OK, mais je vais finir par te mettre KO, en fait.
Complètement.
C'est très étrange. Il a cette confiance en lui, il a cette foi et ce mental.
Et cette capacité à encaisser. Parce qu'il n'y a aucun moment, c'est ça aussi. Enfin, franchement, et on reviendra là-dessus parce que notre cher Rust a mis un point d'honneur justement à saluer notre cher Trevor Whitman, qui est le coach de Justin Gaethje. On y reviendra juste après, mais c'est vrai que là, tu avais ce côté. À aucun moment, les adversaires de Tony Ferguson, où on parle à chaque fois, ils se prennent des coups qui ne sont pas spécifiquement horribles, mais au bout d'un moment, ça vous fait un petit peu perdre les pédales et vous abandonnez tout. Là, vraiment, à chaque fois, il attendait que Tony Ferguson vienne, lui mette la pression, lui mettait ses jabs, les front kicks, mais chaque fois que Tony Ferguson était à distance finalement de frappe, il se prenait un coup. Et même Ferguson, à la fin, savait qu'il se prenait un énorme parpaing. Et chaque fois, c'était la même puissance, le même « OK, bah, tu viens de me mettre un coup, bah, t'as le parpaing qui arrive ». Et tu avais l'impression que c'était un espèce d'accord tacite entre les deux, tu vois. Au fil des rounds, bah, quand tu vois la différence de dommages, bah, ça fait comme ça pour Gaethje et Ferguson, qui lui restait toujours en deçà, enfin deux, trois tons en dessous.
Mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est peut-être le truc le plus dingue qui est arrivé en fait ce soir, c'est que il a fait douter Tony Ferguson, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, comme tu viens de le dire, il y a vraiment des moments où Tony, il avançait, il lançait une séquence, où il envoyait un enchaînement, quoi que ce soit, et tu sentais qu'il attendait la réplique. Il ne déroulait pas comme il déroule d'habitude, il attendait la réplique parce que clairement, il devait le sentir. Et comment ne pas le sentir ? Enfin, je veux dire, je sais pas combien de fois est-ce qu'il a été sonné, Tony Ferguson, dans ce combat, mais... J'espère pour lui qu'il ne spare pas beaucoup, qu'il ne fait pas beaucoup de sparring en dehors des combats, parce que là, rien qu'avec ça, c'est l'équivalent de 45 sparring contre des mecs qui tapent déjà dur, tu vois.
Et c'est pour ça que c'est terrible. Ce combat-là, il est terrible, parce qu'à 36 piges, on l'avait dit, quand Tony Ferguson allait perdre, ça allait vraisemblablement être la fin d'une époque. Là, le problème, c'est qu'il s'est pris une punition. Enfin, là, ça vaut pour peut-être 4-5 combats habituels de Tony Ferguson. Et le prochain... Vous pouvez être sûr que l'UFC va le mettre contre un client. Et je pense personnellement que ça ne va pas tenir 5 rounds pour qu'il se fasse arrêter par l'arbitre.
Ouais, je ne sais pas à quoi va ressembler la fin de carrière de Tony Ferguson. Et en fait, c'est horrible parce que d'un côté, je me dis, j'ai envie qu'il continue. Parce que, et vraiment pour une raison qui est plus terre à terre, tu meurs. Et je sais qu'on va peut-être me le reprocher, j'en sais rien. Mais j'ai envie qu'il continue juste pour gagner un tout petit peu plus d'argent. Et pas parce qu'on est obsédé par l'argent, etc. Juste parce qu'on le répète et on le répète et on le répète. Il dépense tellement juste pour ce sport, Tony Ferguson, pour ses camps d'entraînement, ses entraîneurs, pour sa vie de combattant. C'est un des rares mecs qui est... C'est un samouraï. Et comment dire, et je voudrais tellement que ce soit ce genre d'athlète qui soit mis à l'abri à vie. Je veux qu'il ait une fin de vie heureuse. Je voudrais qu'il ait absolument tout à disposition pour ses enfants, pour sa famille, etc. Parce que s'il y a bien un mec qui a tout sacrifié, c'est Tony Ferguson. Ouais. Ça fait depuis novembre, il le dit, qu'il était en camp d'entraînement. Jamais il s'est plaint une seule fois. Il a dit oui, que même pour affronter Gaethje en une semaine de notice ou je sais pas trop quoi, c'est vraiment, s'il y a bien quelqu'un que personnellement, je voudrais qu'il soit rincé et que toute sa famille, jusqu'aux 5 prochaines générations, soit à l'abri, c'est lui. Et j'espère qu'il y ait eu un énorme bonus par Dana White, j'espère. Et juste pour cette raison-là, j'aimerais qu'il continue quelques combats.
Alors, j'ai tellement...
Le problème, c'est que je n'ai pas envie non plus.
Parce qu'on sait. Voilà.
Voilà. Et le problème, c'est que, je sais, tu vois, on en discutait il y a quelques secondes avant de commencer le podcast, mais c'est il y a des gars qui, je sais pas, c'est comme si l'histoire faisait tout réussir, en fait. Il y a des gars qui, t'as l'impression que tout sourit, qu'ils ont eu, tu sais, cet alignement d'étoiles. Je sais pas pourquoi je fais ça, d'ailleurs, à voir. Mais ouais, voilà, c'est ça, la colombe s'en va. Mais et Tony Ferguson, je sais pas, c'est comme si lui, eh ben c'est voilà, on l'avait déjà dit, c'est le bizarro. C'est le vilain petit canard, quoi. C'est celui ouais. à qui rien ne réussit. C'est un mec, il a une discipline, il a une éthique d'entraînement, il a tout, c'est un champion. Tu peux pas faire plus mental de champion, tu peux pas faire plus champion dans tout ce qu'il fait, Tony Ferguson, et pourtant, eh ben, il n'a jamais été, disons, le champion undisputed, et puis il n'a jamais eu la lumière qu'il mérite. Et c'est terrible, c'est le pouli d'or du MMA, et peut-être le plus, quoi. Plus que Gustafsson, plus que Yura Faber, parce que lui, c'est un vrai champion.
Parce que, à la différence de tous ces mecs-là, il a quand même... c'est lui, les 12 séries de victoires consécutives en lightweight, c'est le record all-time de l'organisation. Champion intérimaire strippé parce qu'il était blessé. Et puis, pour nos inquiétudes, oui, sur Tony Ferguson, hein, c'est pas du tout parce qu'on lui... on veut le charger ou quoi que ce soit. Et là, on va pouvoir parler de Trevor Whitman, c'est que, à la différence de Gaethje, quand il a eu ses deux défaites consécutive contre Eddie Alvarez puis contre Dustin Poirier, c'était à chaque fois des combats où il était dedans. Il était aussi jeune, il venait d'arriver à l'UFC, il avait un petit peu ce style foufou, mais il était invaincu finalement, et au bout d'un moment il finissait par briser tous ses adversaires, sauf que là ça ne s'était pas produit. Là, Ferguson, on rappelle, il a 36 piges. À chaque fois, ses combats, il prend énormément de dommages jusqu'à ce que la courbe s'inverse. Donc c'est quelque chose qui n'est pas non plus rassurant. Et là, il a perdu après s'être pris énormément de dommages, et on le rappelle, à 36 ans. Donc c'est pas, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui pour nous va nous faire dire, ah tiens, il y a de quoi espérer, parce que ça va être compliqué pour lui de se réinventer, mine de rien.
Ouais, et c'est terrible, parce que, et pourtant c'est dur, parce que se réinventer, il aurait même pas besoin, il est tellement unique que de toute façon c'est juste que voilà, il y a dans ce monde, il y a une, deux, peut-être, personnes qui sont capables de battre Tony Ferguson, et il a juste rencontré une de celles-là, quoi.
Ouais.
Mais je sais pas. Mais ouais, on a quand même tellement d'exemples dans le monde du MMA et dans l'histoire du MMA de gens qui, après des guerres comme celle-là, ne sont plus jamais les mêmes, que ça fait peur, quoi. Ça fait vraiment peur.
Ouais.
Et oui, ben voilà, on parlait de Trevor Whitman, voilà, parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Tony Ferguson, et on a dit quand même que voilà, il y a quand même beaucoup de choses qu'il a bien fait, et puis bon, son mental, c'est même pas la peine d'en parler, de son mental à Tony Ferguson.
Ouais.
Mais voilà, il avait une bonne anglaise, il avait des bons kicks, il aurait peut-être pu tenter un peu plus d'amener au sol.
Complètement.
Il l'a fait quand c'était vraiment
trop tard. La panique. Oh là là. Pareil, ça aussi, c'était terrible. Enfin, honnêtement, à voir. Oh là.
Ouais. Bah ouais, parce que c'était vraiment le dernier recours, en fait. C'est un truc qu'il a même pas besoin d'utiliser normalement. Et là, il s'est trouvé un peu qu'il en avait besoin, sauf qu'il avait les jambes flinguées, donc moins d'explosivité. Et puis, bon. Mais voilà, donc il faut rendre à Tony Ferguson, parce qu'il a été égal à lui-même. Sauf que voilà, il est tombé contre un Gaethje transcendé, et le Gaethje 3.0 qui avait dans son corner en plus Trevor Whitman. Et c'est un des trucs, tu vois. C'est marrant d'ailleurs que tu l'évoques, parce que en vrai. Bon, j'ai franchement, j'accrochais les draps et le matelas pendant tout le combat. J'en pouvais plus, franchement, j'en pouvais plus. Pas besoin de public. Hein, alors là, c'était la folie.
D'ailleurs, je préfère comme ça, moi, personnellement.
Alors,
y a beaucoup de personnes, ouais, qui étaient. Alors, qu'est-ce que vous préférez tout? Moi, j'adore le fait t'entends tout, t'entends la respiration, t'entends les coups, t'entends ce que disent les coachs. Ça aussi, j'adore entendre ça. Enfin, en fait, t'as vraiment l'impression d'être là, d'être bah, quand on voit des sparring ou des trucs comme ça.
Ouais, et c'est très étrange, c'est marrant, c'est exactement ça. C'est quand on avait été, c'était Vegas, voir un UFC, qu'en gros j'avais eu cette. Parce que du coup, on avait vu beaucoup de MMA avant à la télé, sur l'ordi, etc. Et personnellement, c'était le premier UFC que je voyais en live. Et il y avait eu cette impression de ah putain, oui, c'est en fait, c'est un vrai combat là, c'est pas. Ouais. Parce qu'en plus, du coup, voilà, il y a une proximité.
Ross était à côté, oui.
Bah, j'étais cage side. Et en gros, c'est pour la première fois, tu sais, t'as une réalisation en mode putain, mais oui, en fait, on est vraiment en train de regarder deux êtres humains, des assassins super entraînés, qui sont en train vraiment de se battre pour de vrai. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment. En fait, c'est très étrange quand on regarde à travers un écran, même si c'est hyper excitant, hein, mais c'est très bizarre. Et là, j'ai retrouvé ça, effectivement, mais derrière un écran. Très bizarre. Mais bon, c'est vrai que voilà, t'entends tout, t'entends le grincement des marches métalliques quand la comment dire, je sais plus comment elle s'appelle, la ringer,
oui, le sang
pour mettre son panneau. C'est très étrange d'ailleurs, ça aussi. Mais oui, et voilà. Et le truc, c'est que Trevor Whitman, c'est la première fois où je ressens ça, perso, je sais pas pour toi, mais de ma vie, ou en gros, entre les rounds, parce que du coup, je suis tellement attaché à Tony Ferguson que je voudrais qu'il gagne, même si, voilà, j'adore aussi Justin Gaethje. Et pendant les rounds, quand j'entendais Trevor Whitman parler, j'étais en mode « Arrête, 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 c'est pas juste, arrête !» En gros, il lui donnait tellement les conseils parfaits, le fait de trop y aller, et qu'en gros il y allait à 100% sur ses coups et que c'était pas bon, et qu'il fallait commencer à un tout petit peu moins de wind-up, un tout petit peu moins d'élan sur les coups, mais être sûr de toucher à chaque fois. Il a eu toujours les bons conseils au bon moment, parce que Whitman, c'est un des meilleurs coachs de MMA,
et que Gaethje l'écoutait surtout,
et parce
qu'il y a énormément de combattants qui n'écoutent pas leur coach. On vous voit.
Ouais. C'est vrai, et ça c'est une énorme différence, hein. Des mecs comme Cyril Gane, pareil, tu vois, c'est des gars qui sont capables de séparer bien ce qui se passe pour entendre vraiment leur coach et réagir en conséquence. Et Gaethje, c'est pareil. Et c'est vrai que ce soit entre les rounds ou que ce soit pendant le combat, c'est hallucinant l'apport. Et c'est là où on le voit qu'est un gars comme Trevor Whitman, Trevor Whitman. Et d'ailleurs, bah, il ne s'y trompe pas, hein, Gaethje. Enfin, à chaque fois, c'est gros shout-out, gros big-up à Trevor Whitman. Mais voilà, c'est une équipe. Le binôme est parfait, comme un Dwayne Ludwig et un TJ étaient allés de pair. Bah, là, c'est pareil. Le Gaethje et Trevor Whitman, c'est la paire parfaite. Ils se connaissent parfaitement. Ils savent exactement comment se parler, comment communiquer, comment se transférer les idées pour qu'elles soient ingérées de façon optimale. Et puis, il sait quoi dire aussi, Trevor Whitman, parce qu'il le connaît depuis qu'il est toujours gamin.
Et là, pour le coup, les défaites les ont servi. Enfin, ont surtout servi Gaethje, parce que je pense qu'il s'est mis à se dire « Bon, bah, ok, je vais peut-être plus écouter mon coach, parce que là, ce que je faisais jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché par deux fois, et maintenant, il faut que je lui fasse confiance pleinement. »
Il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu le fait qu'il y a eu cette opération aux yeux qui est fait que maintenant, il voit ce qui se passe devant lui clairement, et pas seulement un espèce de flou artistique. Le fait qu'il y ait eu, effectivement, tu as raison, ces deux défaites qui lui ont suggéré à grands coups quand même de battoir dans la figure qu'il fallait peut-être changer de game plan. Il disait lui-même, Justin Gaethje, qu'en fait, il kiffait trop la bagarre. Exactement. Et que c'est ça qui...
Il aimait se prendre des coups, il a dit.
Il aime se prendre des coups, et du coup, il était emmené vers le fond avec le plus grand des plaisirs, mais sauf que du coup, parfois, il pouvait aussi perdre pied. Et donc voilà, il a changé son style de combat, il a changé son approche. Et bah voilà, là, ce qu'on voit depuis, donc ça fait 4 victoires d'affilée et 4 par finish, et contre des clients, mais vraiment des clients. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il donnerait contre Khabib, parce que le problème, c'est que...
Ça va être complètement Khabib, différent. C'est
avoir tous ces, avoir une boxe aussi magnifique et rapide, ce timing, c'est extraordinaire. Sauf que c'est Khabib en face, quoi. Et le problème, c'est que Khabib, bah, si t'es au sol, ça sert à rien d'avoir une super anglaise. Exactement. Donc voilà, on sait pas trop. Bon, on verra pour une analyse, en tout cas, un Gaethje Khabib. Mais voilà, ce qu'on a vu, en tout cas, c'est vraiment
après, là, le game plan qu'ils ont proposé. Et surtout, oui, c'était ça, mon cher Ross, que Trevor Whitman a dit juste avant le 5e round, qu'il y a Gaethje qui était tout sourire finalement sur son tabouret, qui est tout seul sur son tabouret en mode ça y est, c'est bon, c'est dans la poche. Et Trevor Whitman, il lui dit la dernière fois que tu étais aussi à l'aise, tu t'es fait terminer. Et là, direct, t'as Gaethje qui descend, qui fait mauvais deux fois.
Oh putain, mec, j'ai même pas vu ça.
C'est ce que je t'avais envoyé, c'est pour ça que j'ai fait waouh. Alors là, franchement, dire ça comme ça, et tu vois Gaethje qui redescend d'un seul coup, mais ouais, oui, ok. Ok.
Oh. Oh, mais bon, je vais me remater juste après. Je vais me le remater juste après. Putain, mais ben voilà. Mais le truc, c'est que c'est, voilà. Ouais. Enfin, c'est, voilà. C'est le genre c'est de
ça
truc.
Ça change entre un Eddie Bravo qui fait tant une Emanario.
Ben, cela dit, il a pas tort. Il a pas tort.
Il a pas tort, mais.
Ben voilà, ben, le truc, c'est que Eddie Bravo, je pourrais jamais dire du mal d'Eddie Bravo parce que.
Là, tu dis peut-être, tu aurais peut-être besoin d'un head coach.
Exactement. Et en revanche, et c'est là où, je pense qu'on peut que être d'accord avec toi parce que déjà, personnellement, le fait de voir Eddie Bravo seul dans la cage, que ce soit lui qui soit seul dans la cage à parler à Tony Ferguson en face à face, déjà, c'est vrai que honnêtement, j'étais en mode, oula, attends, donc c'est Eddie Bravo, son head coach. Et j'avais jamais réalisé, on savait que Tony Ferguson était grosso modo son propre entraîneur. On savait que c'est lui-même qui dirige ses propres camps d'entraînement. Mais c'est vrai que là, dans une situation comme celle-là, le fait d'avoir Eddie Bravo, Eddie Bravo, c'est une légende. Et en coach de jiu-jitsu brésilien, tu peux difficilement faire mieux sur la planète. Mais c'est vrai qu'en tant que head coach MMA, voilà, c'est pour changer de tactique, pour avoir une vue plus globale et puis pouvoir aussi avoir un apport vraiment technique sur le striking et puis toutes les phases agglomérées en même temps, c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir un Trevor Whitman, un Matt Humes, un Firas Zahabi. Et là, c'est vrai que je ne sais pas si c'est ce qui a manqué à Tony Ferguson. On n'en saura rien, je pense, parce qu'il a tellement un style unique que Je sais, tu vois, il y a des gens, je ne sais même pas s'ils sont entre guillemets coachables, parce qu'il est tellement dans son propre univers, Tony Ferguson, que c'est même pas dit en fait que s'il avait un head coach, ce serait utile.
Après, là, pour le coup, moi, ce qui me fait peur pour la suite, c'est que tu as quand même. Enfin, Gedji, il a appliqué vraiment quelque chose où il lui a jamais permis d'être dans son rythme, finalement, ouais. Et tu sais, de commencer à danser et tout ça. Ouais. Et finalement, là, si les mecs commencent à se dire, bon, bah, ok, tu acceptes finalement de te prendre des coups, mais tu le contres. Tu le colles, enfin, parce que vraiment c'est ça mine de rien, il a accepté ça aussi Gedji, et Tony Ferguson il tentait plein de choses comme on l'a dit très très bien, mais il n'y avait jamais ce flow, cette espèce de groove qui fait que tu te dis oh putain ça y est le mec il est lancé, moi je peux rien faire. Et là à chaque fois c'est quand on voyait quand il déclenchait, c'était toujours pas forcément en retard, mais c'était
c'était quand...
contre-coup, enfin, tu disais que t'avais toujours un moment soit l'autre et, enfin, l'autre Gedji avait exactement, il savait ce qu'il allait faire, ou alors il n'y avait pas forcément cette bonne distance quand il essayait vraiment de faire mal, on va dire.
Ouais.
Et en fait, c'est pour ça que c'est un peu dur.
Mais c'est ça le truc, c'est que ben, comment dire, c'est très compliqué de rentrer dans ton rythme quand t'as un mec qui te savate, mais qui t'explose en low kick. Déjà rien que ça, pour rentrer dans son rythme, c'est compliqué parce que ça t'empêche de rentrer correctement, de sortir correctement, d'être à l'aise et confiant quand tu mets une combinaison. Rien que ça, rien que les low kicks, déjà ça fait tout ce travail de sape, et Dieu sait qu'il les a mis, Gedji, enfin monstrueux. Et il y a aussi le fait que Gedji contrait à chaque fois. Alors il a beaucoup raté aussi, mais c'est parce que Tony Ferguson a un mouvement qui est très étrange, qui est pas orthodoxe du tout, qui est pas académique. Mais il touchait aussi énormément. Et quand il touchait, c'était au bon moment et c'était généralement en contre au milieu d'un enchaînement de Tony Ferguson. Il ne le laissait pas dérouler, il ne le laissait pas se mettre à l'aise. Ouais. Et c'est vrai que y en a qui ont essayé déjà ça contre Tony Ferguson. Le problème, c'est qu'il faut vraiment avoir ce set de skills particulier qu'a Gedji, c'est-à-dire être vraiment très rapide, avoir un coup d'œil et avoir un timing parfait, avoir des low kicks qui vont avec, parce que mine de rien, ça aide. Parce que
s'il y a t'imagines, là, ils le mettent contre Dustin Poirier, là.
Gedji
Tony Ferguson.
Ouais, mais je sais pas, parce que je trouve que Dustin est peut-être un poil moins rapide, un poil moins explosif. Il est explosif de ouf. Comme ça, on s'en fout. mais je pense vraiment que Gedji, ce qu'il a montré là, c'est un niveau. C'est un niveau. Alors, ce sont des skills différents.
Oui, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un niveau au-dessus, mais j'ai peur qu'un Dustin Poirier puisse appliquer la recette, en fait. C'est plus ça, Tony, tu vois.
Ouais, oui. Ouais. Après, il a pas les mêmes low kicks, mais
complètement.
Parce que, en fait, je suis pas encore persuadé que ce soit vraiment ce qu'est fait Gedji. Je suis pas persuadé que ce soit ça y est, c'est la recette pour battre Tony Ferguson, parce que d'autres ont essayé avant lui. C'est juste qu'ils ont pas réussi.
Ils sont morts.
voilà, ils sont plus là pour en parler. C'est juste que Gedji fait partie de ce cercle très fermé d'une seule personne sur Terre qui sont capables de faire ça à Tony, en fait.
Après, donc, il est puissant aussi. Et c'est vrai que c'est Paul Thompson, je ne sais pas qui l'avait dit aussi, que c'était aussi, mine de rien, la première fois que Tony Ferguson affrontait quelqu'un qui avait les mains aussi lourdes. Et c'est pour ça que tu vois un mec comme de
ça. Rapide, puissant, explosif.
C'est ça. Il faut bien évidemment avoir tout ça, parce que c'est vrai que si vous êtes un mec qui frappe avec des coussins, ça va être un petit peu compliqué. Mais un mec comme Dustin Poirier, il a ça aussi, il a cette puissance.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mais, cela dit, il a cette puissance, mais c'est pas la même. Et alors là, vraiment, ça rentre un peu dans du spécifique, mais c'est pas la même manière de frapper. Et je pense que ce serait peut-être un tout petit peu plus facile. Bon, facile, c'est jamais facile, mais Tony Ferguson pourrait peut-être un peu mieux gérer le type de boxe que de Dustin Poirier plutôt que celui de Justin Gaethje, parce que Poirier, il est explosif, il est rapide, il est puissant, mais c'est, quand il met des coups, c'est pas un clin d'œil et un coup de foudre et un coup de tonnerre que tu vois même pas venir, en fait.
Et plus en combinaison aussi.
En combinaison, et voilà, il est un peu plus, il a un flow, il frappe super dur, il a les mains lourdes, Mais Geji, c'est vraiment, c'est de 0 à 100 en 0,002 secondes. Et ça, il n'a pas exactement ça, ni Dustin, ni Eddie Alvarez, ils n'ont pas exactement ce type de faculté athlétique et ce type d'anglaise. Du coup, je sais pas, je pense vraiment, pour l'instant, mais encore une fois, on est à chaud, qu'il n'y a que Geji, en fait, qui peut faire un truc comme ça à Tony Ferguson.
Ah, je sais pas. Moi, j'ai vraiment peur. Parce que Mignola, là, c'était quand même un Geji. On l'avait pas vu comme ça. Là, il attendait vraiment, tu vois.
Il était patient.
Exactement. Ils étaient... Mais plus que les autres combats, parce que les combats contre Cerrone, les combats contre James Vick, les combats contre Edson Barboza, ils travaillaient en... Contre Cerrone, il a mis le compte parfait. Et contre James Vick et contre Edson Barboza, c'est lui qui avançait. Là, c'était vraiment, il savait que Ferguson allait venir dans tous les cas. Ouais. Donc, c'était, tu le laisses venir et quand il vient, bah, vous contrez. Voilà. Ouais, donc, et avec la pression qu'on connaît, donc là, effectivement, mon cher Rust, il y en a très peu qui peuvent faire ça, mais j'espère. Enfin, vraiment, moi, j'espère que là, ça va pas être la longue descente aux enfers pour Tony. Et j'espère aussi que l'UFC, pour son prochain combat, mais là aussi, j'ai très peur, vont lui passer quelqu'un d'abordable. Parce que tu vois, même s'il lui met quelqu'un d'un peu durable, un Paul Felder par exemple, j'aurais un petit peu peur.
Ouais, bah ouais. Mais après, pour être tout à fait honnête, je sais pas, j'ai l'impression que je sais pas pourquoi et c'est pas rationnel, mais que en gros, avec le style de combat qu'a Ferguson, c'est-à-dire d'encaisser énormément, de faire presque des guerres ou en tout cas de l'attrition à chaque fois, tu peux pas avoir plusieurs runs pour le titre, je pense.
Ah mais non. Alors là, par contre, là c'est clair. Oui, là on est tous les deux d'accord. Moi c'est plus qui finit sa carrière dignement plutôt que, là je le vois clairement gros comme une maison,
ouais, mais du coup, pour 3
défaites par KO consécutives et putain.
Mais du coup pour aller où en fait, c'est ça le problème, c'est que s'il continue, à part pour mettre sa famille peut-être un peu à l'abri si jamais l'UFC lui fait un contrat, c'est juste, ouais bah ouais, si c'est pour ça, oui alors oui.
Mais puis tu sais, tant qu'il lui propose des contrats, parce que j'ai pas vraiment d'exemple là, j'ai pas vraiment d'exemple. Si, bah un mec est... Ça n'a rien à voir au niveau du style, mais je veux dire, au niveau de l'âge et tout, il peut avoir une corrélation avec ça. C'est un peu, tu vois, la fin de carrière de Demian Maia. Où en gros, t'es vieux, t'as ta série de victoires, les UFC est obligé de te filer un combat pour le titre parce que tu le mérites. Donc, il te file Tyrone Woodley, tu perds contre Tyrone Woodley, ensuite tu deviens, tu sais, l'espèce de gatekeeper ultime. Donc, on te file Kamaru Usman. Ah bah, t'as perdu contre Kamaru Usman a été title shot. On te file Colby Covington. Ah bah, t'as perdu, machin. Ensuite, tu récupères un autre mec prenable, tu gagnes. Et ensuite, voilà, jusqu'à ce que tu perdes et tu te fasses finir par Gilbert Burns, qui est bon, mais qui est nettement en deçà des mecs qu'on a nommés précédemment. Et j'ai vraiment peur pour que Tony Ferguson ce soit ça, mais en beaucoup plus violent, malheureusement.
Mais ça fait chier, parce que, et avec tout le respect, et Dieu sait qu'on lui en doit à Demian Maia, Tony Ferguson, c'est vraiment un champion qui n'a jamais eu de couronne et il mérite. Ouais, il méritait tellement, c'est tellement un champion dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, qu'un mec comme lui finisse comme ça, sans jamais avoir décroché le Graal, ce serait... Il y a un truc qui cloche, ça va pas, c'est pas possible. Du coup, je sais pas ce qui va se passer.
Ça fait partie de ces mecs qui ont un temps dominé la catégorie, mais qui n'avaient pas la ceinture. Enfin, c'était les champions officieux, en fait, tout simplement. Ouais. Et puis après, Rust, vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, comme toutes vos interventions d'ailleurs, c'était, et là c'est peut-être ça aussi, c'est vrai que Tony Ferguson se prépare spécifiquement pour Habib depuis novembre.
Oui, il faut qu'on le dise aussi.
Et ça, mine de rien, ça peut faire partie des choses où le prochain combat, on va revoir le Tony Ferguson qu'on connaît, qui a son groove, qui a tout ça. Quand vous préparez depuis novembre, face à un mec où vous savez à chaque fois ce qu'il va faire, Habib, il ne va pas être debout. Il va lancer les takedowns. Il reste debout quand il sait que vous êtes cuit et que vous êtes clairement à point et que là, il n'y a plus aucun danger. Donc, c'est vrai que passer de ça en novembre où vous êtes, enfin, voilà, Tony Ferguson, quand même 36 piges, ceci, cela, qui est vraiment dans la route à Habib, et on parle de Habib Nurmagomedov, champion invaincu de l'UFC, l'un des plus grands de tous les temps. Donc, autant vous dire que ce n'est pas comme si vous préparez un combat comme un autre. Vous changez ensuite pendant deux semaines, il y a l'incertitude du combat. Finalement, ça ne se fait pas. Ensuite, vous êtes là en mode, il y a les négociations contractuelles, mais vous ne savez pas quand l'UFC va revenir. Finalement, deux semaines après, l'UFC vous prévient pour dire, ok, ça va se faire. Enfin, c'est quand même une situation particulière pour lui. Alors que Justin Gaethje, c'est vrai qu'il n'avait pas du tout ce côté, quasiment 6 mois d'entraînement derrière lui pour un style spécifique qui était complètement différent de ce qu'il attendait là.
En fait, c'est là où je pense, probablement, on va se faire peut-être le plus clashé, mais honnêtement, rationnellement parlant, c'est compliqué de ne pas mettre ça sur la table. Parce ouais. que s'entraîner depuis novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai
juin.
mais c'est de la folie. Et en ouais. plus, c'est pas n'importe qui s'entraîne. C'est Tony Ferguson qui s'entraîne. Et quand il s'entraîne, sa vie tourne autour de ça. C'est-à-dire que là, on peut parler de overtraining. Tu vois, enfin, c'est un mec, il se met dans le rouge tous les jours de sa vie quand il est en camp d'entraînement. Et non seulement ça, donc ça veut dire que ça fait 6 mois qu'il est dans le rouge, non seulement ça, mais ça fait donc 6 mois qu'il s'entraîne pour un grappleur et pour toutes les combinaisons possibles au sol pour le surprendre, parce que debout, c'est vraisemblablement pas là que ce serait passé. Donc vous pouvez être sûr que pendant 5 sur les 6 mois derniers, Tony a habitué son corps à beaucoup plus être sur du travail en grappling, du travail au sol, du travail en lutte, et c'est pas du tout la même utilisation des muscles que quand tu t'entraînes pour du striking, sur l'explosivité, etc. Donc c'est évident aussi, et là c'est difficilement, je pense, réfutable, que physiquement, ça peut pas être un Tony qui était optimal, c'est-à-dire qu'il s'est entraîné pendant tout ce temps-là pour grosso modo être moins efficace en striking et beaucoup plus au sol. Et là, il n'a pas passé une seule seconde au sol. Donc c'est compliqué de quand même de pas mettre ça en relation et de se dire, ben voilà, il n'était pas dans les meilleures dispositions non plus, quoi. Et alors, ça c'est vrai que c'est encore différent. Et là, pour le coup, je ne soutiens rien, seulement je l'évoque. Il y a pas mal de combattants qui disent aussi que les meilleurs moments, on pense à Gunnar Nelson, notamment, qui disait que c'est comme ça qu'il avait obtenu son mindset, en fait, d'être tout le temps calme. C'est qu'il s'était rendu compte qu'en fait, c'est les moments où il avait été en short notice au dernier moment, que en gros, qu'il se sentait le mieux parce qu'il n'avait pas de pression, parce qu'il n'avait pas mis son corps sous un tel stress, sous une telle pression, sous un tel grind pendant des mois. Et qu'en gros, c'est dans ces moments-là, entre guillemets, où il était plus frais et entre guillemets, où il n'avait rien à perdre, même si bien sûr, il avait à perdre, c'était pour le titre, etc. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Eh bien, paradoxalement, le fait d'avoir simplement un mois de préparation, et du coup, il a quand même pu faire, apporter un espèce de pic physique à son corps, parce qu'un mois, ce n'est pas négligeable quand même. Et sachant que c'est quand même un gars qui s'entraîne malgré tout le temps, un mois, tu peux vraiment, vraiment faire partir ton corps sur la lancée comparé à, c'est ce que disait Junior Dos Santos, en fait, quand tu travailles, et le Crocold aussi, quand tu travailles vraiment hardcore pour un camp d'entraînement pendant 3 mois, en fait, c'est très courant que ton pic physique soit passé au moment où tu combattes. Tu vois. Et donc, il y a aussi de grandes chances que là, c'était parfait pour Justin. Et c'est, ce qu'on fait, ce n'est pas une excuse du tout. Là, au risque de le répéter, au risque de le répéter, quoi, même si c'est le cas, ce qu'on vient de voir là, et donc qu'on peut revoir, hein, c'est pas un problème, hein, c'est pas comme si c'était un set de conditions unique qu'on verrait jamais. C'est simplement que voilà, là, on a vu un Justin Gaethje presque perfect, hein, presque imparfait, quoi. C'est un gars qui est arrivé le mieux. Le plus brillant shiny carte Pokémon qu'on ait jamais vu auparavant, mais seulement voilà, il y avait peut-être ce set aussi de conditions qui a aidé à avoir un tel différentiel entre les deux, Tony et Justin.
Man,
man, terrible.
Franchement, c'est dur parce que voilà, vous ne verrez jamais Tony Ferguson, Khabib Nurmagomedov, et que personne nous dise ah bah on voit ce que ça a donné contre Gaethje, donc il sera
battu
par Khabib.
Non,
ça ne marche pas comme ça, le MMA. Respectez Tony Ferguson. Mais en tout cas, vraiment bravo à Justin Gaethje.
Ouais.
Bon, au moins voilà, vraiment par contre. Si on peut avoir des motifs d'espoir, avec cette victoire-là, tu n'as pas ce côté « Ah bah merde, c'est Khabib contre Gaethje ». Enfin, je veux dire, là, maintenant, j'ai envie de voir le combat. Tu vois, ça m'aurait vraiment fait mal que ce soit une victoire un peu chelou et tu te dises passe à côté de quelque chose, mais on gagne quand même autre chose qui pose aussi des questions.
Ouais, qui pose ces questions. Alors évidemment, au niveau stylistique, je préfère quand même Tony Ferguson parce que je pense que c'était le style qui pouvait le plus apporter un vrai danger à Khabib. Mais malgré tout, voilà, c'est vrai que là, vu ce qu'on a vu de Gaethje, ça va être quand même quelque chose d'absolument unique. Et bon, voilà, enfin, c'est quelque chose d'unique. J'étais en train de penser à est-ce qu'il apporte vraiment un set de compétences que personne n'avait avant lui. Alors, je ne sais pas, parce qu'on pourrait dire que Connor était aussi extrêmement rapide, très bon en anglaise, un coup d'œil, un timing incroyable. Mais bon, enfin, oui, en tout cas, il apporte quelque chose d'unique. Maintenant, la question, c'est... En plus, il a une meilleure lutte que Connor. Ouais. Mais voilà, la question, c'est... est-ce que stylistiquement, ça sert à quelque chose, en fait, quoi ?
Les transitions, moi, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir pour les transitions. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va poncer le sujet comme Jaja. Mais il est dégoûté.
Bah, je suis fatigué, mais surtout, je suis... Voilà, Tony, putain.
Alors, c'est... Enfin, non, c'est terrible. Finir comme ça, parce que vraiment, pour moi, tu vois, les deux moments où il reculait, là, pour moi, c'est presque pire que de se faire mettre KO. Parce que le voir comme ça, Tony... Enfin, voilà,
Tu sais tout ce qu'il a enduré, en fait.
Exactement. Là, il s'est pris une Tony Ferguson, comme tu l'as dit, quoi. Et vraiment, le voir comme ça, c'était terrible, parce que pour moi aussi, ça c'est... Tu vois, ne serait-ce que dans la tête de ses prochains adversaires, t'as un truc qui s'est brisé, là. Le mec qui coupait tout le monde, qui à chaque fois, justement, te cassait en deux mentalement, là, ils ont vu un mec qui, par deux fois, quand même, l'a fait reculer comme ça, dont une fois où il a quand même tapé un petit... Enfin, pas tapé un sprint, mais il a couru, Tony Ferguson. Ce qui était évidemment la meilleure chose à faire, parce que sinon, là, il risquait de se faire purement et simplement finir. Mais de le voir comme ça, c'est...
Ouais. Bah ouais, non, c'est... C'est terrible, c'est vraiment terrible. Ah putain.
Ouais, bah non, ça fait chier. Franchement, ça.
Ça fout un coup moral, en fait. Et aussi parce que.
Après, j'espère que comme ça, les mecs, les prochains, la prochaine fois que t'as un mec comme ça, il se dira pas, je prends le combat, même si c'est effectivement hyper dur financièrement et tout, il prendra pas le combat hyper dangereux avant d'avoir.
Et le problème, c'est que l'UFC lui aurait passé devant. S'il avait refusé le combat, l'UFC aurait fait bon, bah ok, bah, Conor versus McGregor, Conor versus Khabib 2. Quoi.
Sachant que oui, même pour vous dire, pour terminer là-dessus, même Stipe Miocic n'est pas à l'abri. Donc,
Ouais, non, faut rapporter du bif, hein, tout simplement. Si tu rapportes pas de bif, tu sers à rien un petit peu.
Voilà, exact.
Évidemment, on en rajoute, évidemment, c'est pas et ça qu'on pense, ni, mais voilà.
Mais on est un peu dégoûté. Aussi,
on est dégoûté et dégoûté, voilà, pour finir là-dessus, que parce que c'est quelqu'un qui est tellement unique et attachant, Tony Ferguson, que même du point de vue humain, en fait, et c'est même peut-être ça qui fait plus mal, c'est que du point de vue humain, c'est un gars, comment dire, je vais essayer de faire très rapide, mais ce qui inspire le plus dans la vie, c'est des gars qui font tout ce que Ferguson fait et qui réussissent. Et là, le fait que t'es un gars qui est tout sacrifié, qui passe par l'enfer, qui fasse tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a de plus dur, qui se plaigne jamais, qui accepte les trucs les chemins les plus compliqués, qui recule devant rien, qui se plaint pas, et qui finisse pas par avoir ce qu'il mérite, qui finisse pas par avoir son moment de gloire ultime, son titre, qu'on le voit pas en sanglots parce que tout ce qu'il a fait a fini vers le titre qu'il a toujours voulu, etc. Le fait qu'on soit privé de ce moment-là et qu'on l'aura jamais, pour un gars comme Tony Ferguson, là, le destin, franchement, est un fils de pute, tu vois.
Complètement. Non, c'est terrible. Et surtout, ah oui, et l'option à laquelle nous n'avions pas pensé, mon cher Rust, et là, je pense que ce serait le pire, mais c'est probable aussi, c'est que l'UFC nous mette contre Tony Ferguson fin juin, tu vois.
Khabib ?
Non, Tony Ferguson fin juin ou en juillet.
Comme qu'il le fasse recombattre ?
Qu'il le fasse recombattre. Parce que ça faisait partie des rumeurs comme quoi Conor McGregor allait potentiellement affronter le perdant justement avant d'avoir... Il y a aussi des discussions, bien évidemment. Là, ça a l'air d'être lancé contre Nate Diaz. Mais moi, voilà. Enfin, j'ai vraiment peur, tu vois, le prochain traquenard, on sera content. OK, il sera payé, mais il n'aura pas complètement recouvré toutes ses facultés. Et
encore, il sera payé, mais voilà, il ne sera pas payé autant que s'il était devenu ne serait-ce que champion intérimaire ou champion. Donc, il va continuer avec sa paye actuelle et... Ça fait chier, putain. Ça fait chier. Il mérite tellement, ça fait chier. Vraiment, ça fait chier.
Ouais. Bah, j'ai... Bon, enfin, bref, mon cher Rust, ouais. On va se retrouver très vite avec notre cher Poydosso parce que, bien évidemment, on va couvrir le reste de la carte. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, voilà. Notre cher Francis, le combat de Francis, nous allons en parler parce que...
Putain, Francis.
Voilà. Bon, allez. Allez. Nous ne sommes pas partis parce qu'on n'a pas assez insisté sur Justin Gaethje et notamment sur cet après-fin de second round où pour beaucoup, pour nous, il était mort car sauvé par la cloche. C'était arrivé face à de nombreux combattants par le passé. Mais cette fois, bah, il a su recouvrer ses esprits, son sérieux aussi, abandonner ce côté un petit peu reckless. Donc, il fallait qu'on lui tire notre chapeau.
Ouais. Mais bah, le truc, c'est que, en fait, et alors ça, c'est une composante qu'on voit souvent dans les combats de Justin Gaethje, c'est le fait qu'en gros, il a toujours l'air. T'inquiète, moi, j'ai l'air de repartir là, mais voilà, c'est simplement qu'on vous dise, en fait, on a fini le premier podcast, on a recommencé à parler de Gaethje, on s'est dit putain, mais on n'a pas. Il y a tellement de trucs à dire sur Gaethje, on n'a pas été. On était tellement dans le truc de Tony Ferguson, mais voilà. Et effectivement, Gaethje, il est connu, et d'ailleurs, ça. C'est un truc, même j'ai rematé tous ces combats au PFL, et en fait, t'as toujours l'impression qu'il est à moitié en train de gasser au début au second round. Et en fait, non, c'est très bizarre. Il prend des grandes inspirations, sauf qu'en fait, il est jamais vraiment gassé. C'est-à-dire qu'il a toujours le même cardio, c'est très étrange en fait. Même du deuxième au cinquième round, il va faire ce. Pas évident, mais en fait, il est toujours à la même puissance, il est toujours. C'est très étrange. Mais effectivement, il fallait qu'on reparle de Justin parce que. Juste le mental de Justin. Faire ça à Tony Ferguson, c'est une chose. Mais un truc comme ça, et en fait, ce qui nous a donné envie de repartir... Attendez une minute. Wait a minute. Ce qui nous a donné envie, en fait, de repartir là sur un podcast, c'est simplement, il y a un moment... Et là, on en a reparlé du coup avec Guillaume, on était en mode « Oh putain, mais oui !» C'est le moment, en fait, où...
Il l'a Big Brother.
Il en a fait son fils. Il a, comment dire... non, mais vraiment, parce que, tu sais, c'est le... Alors du coup, c'est quoi, quatrième round ?
Quatrième round, il y a un moment où Justin Gaethje, et c'est pour ça qu'on parle du mental, parce que c'est une démonstration de caractère, en fait. Il y a un moment où Tony Ferguson était déjà bien mal en point, Gaethje était fidèle à lui-même, et il y a un moment où ils se retrouvent proches l'un de l'autre, je ne sais plus si Ferguson a fait une tentative de se tourner ou quoi que ce soit, et là, Gaethje lui fait vraiment, mais le dégage et laisse-moi ton plateau à la cantine, tu vois, genre, casse-toi. Ouais. Et c'était voir Tony Ferguson...
rebondit contre la cage. Ouais.
Ouais, voilà, il fait le flipper contre la cage, et voir quelqu'un de la trempe, du mental, forgé en enfer, comme Tony Ferguson, se prendre ça, c'est complètement délirant. Et ça veut en dire beaucoup sur le mental, sur le caractère de Justin Gaethje. On savait que Tony Ferguson avait été créé dans un autre univers. Visiblement, ils font partie du même. Parce que Gaethje, voilà, on le savait, il est insubmersible. Tu ne peux pas casser mentalement Justin Gaethje. C'est un frère Diaz, c'est un Tony Ferguson, c'est un Max Holloway. Tu ne peux pas casser mentalement Justin Gaethje, et lui, c'est encore plus que ça. Non seulement tu ne peux pas le casser, mais quoi qu'il arrive, il garde cette même confiance qui va t'éclater à n'importe quel moment du combat. C'est complètement délirant. Il est délirant, Justin Gaethje.
Terrible. C'est vraiment terrible. Terrible pour ce cher Tony Ferguson. Voilà, je pense que là, on a vraiment mis l'accent sur notre cher Justin Gaethje. Ouais. Il y a véritablement de sa part, parce que c'est vrai que là, et je pense que vous serez assez d'accord avec nous, à part cette grosse alerte à la fin du deuxième round, c'était superbe. Et d'ailleurs, enfin, grosse alerte à la fin du deuxième round, on peut quand même dire que les deux avaient déclenché au même moment l'uppercut.
Ouais.
Et je sais même plus si Gaethje touche.
Non, il touche pas. Il touche pas, mais comment dire, Ferguson, et c'est là où ça sert d'avoir, je crois que c'est 5 pouces d'avantage en allonge. Il y a aussi le fait que, j'ai plus le mouvement tête, je crois que Tony Ferguson a aussi décentré sa tête de la ligne d'attaque, je crois, il me semble. Et donc, il a touché Gaethje, non. Mais ouais, voilà, enfin, il y avait match jusqu'à ce que. Non, enfin, je sais même pas.
Non, il y avait. Non, honnêtement, il y avait. Enfin. Il n'y a aucun moment, à part celui-là, où on s'est dit « Ok, ok, là, Justin Gaethje est en danger. »
Ouais, c'est vrai. Il y a eu des frappes dures. Dès les premiers rounds, il y a eu des frappes extrêmement dures de la part des deux. Low kick, direct, crochet, les deux ont frappé sec. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu cette impression de... Comme ça, où tu retiens ton souffle parce que tu sens qu'à la moindre brise, ça peut...
Pour Gaethje, ça peut Ferguson, dès le troisième round, on était en mode « Ok, là, ça commence à faire beaucoup. »
Ouais.
Ouais, putain, désolé, je pense à un truc et je suis fatigué, hein, mais quand j'ai dit il l'a poussé comme donne-moi ton plateau à la cantine, je l'ai pas fait, hein, c'est, mais c'est simplement ça, ça rappelle dans les films américains quand ils font ça.
Par contre, tu t'es fait pousser.
Non, voilà, j'ai trop vu de films.
Hein, en plus, c'est complètement faux parce que tu ne mangeais pas à la cantine si je ne m'abuse.
Bah, si.
Si.
Le midi.
Ah, mais je croyais que non.
Si. Au collège, je mangeais pas à la cantine.
Ah, okay.
Au lycée, j'avais commencé à aller au self.
Ah, yes, c'est pas moi aussi parce qu'on était dans la même cantine au lycée, c'est pour ça. C'était pas fameuse d'ailleurs.
Ah, ça dépend. Il y a eu, à un moment donné, ils ont fait des petits changements qui étaient pas mal, avec des petits pains bio et tout. C'est vraiment le meilleur moment pour en parler.
Quoi? Attends, ne réécrivons pas l'histoire. J'ai aucun souvenir des pains bio.
En fait, ils faisaient ça, mais ils faisaient... Attends, c'était... Putain.
Non. C'était de 2007 à 2010. Moi, je me souviens, il y avait pas de pain bio. Hein. C'était les vieux petits pains surgelés. Là.
Pas de pain bio. Mais ça venait genre une fois par semaine, tu sais. Et en gros, tu as des petits pains, des petits producteurs et tout.
Non. Ouais, je sais pas, moi, j'ai vraiment souvenir que c'était dégueulasse.
Bah non. Ça, alors, en fait... Oui, c'était pas fameux, mais après, en fait, comme bon, tu sais, c'est comme les selfs, hein, comme c'est hyper diversifié tout le temps, bon, en fait, tu kiffes. Il hein. Bah, y a juste les flageolets qui foutaient la chiasse, hein, ça c'était un peu
c'est casse. Ça. Mais c'est... puis, ouais, non, je sais pas, c'est leur vieux dessert aussi, un espèce de truc qui ressemblait littéralement à du vomi sucré. C'était froid en plus. C'était, c'était bien, c'était blanc laiteux, on va dire laiteux.
Ouais, mais franchement.
Voilà, exactement. En tout cas, shout out à eux, ils se reconnaîtront. Également, merci à My Sweet Protein. On les a oubliés quand même. Moins 38% en ce moment avec le code La Sueur. Voilà. À la prochaine.
À la prochaine.
Sueur. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.